VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce mardi 23 novembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce soir. En Éthiopie, le Premier ministre a dit vouloir aller au front, mener la bataille contre les rebelles. Le gouvernement nigérian rejette le rapport d'une commission d'enquête qui a qualifié de massacre la répression de 2020 à Lagos. En Libye, 98 candidats s'affronteront à la présidentielle à la fin de l'année. Offensive inédite des États-Unis et d'autres pays, dont la Chine, pour faire baisser les cours du pétrole. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. En Éthiopie, le chef du gouvernement, Abiy Ahmed, dit vouloir aller sur le front pour diriger les soldats affrontant les rebelles. Alors que le conflit se rapproche de la capitale Addis Abeba, les chefs d'État sud-africains et kényans appellent à un cessez-le-feu immédiat et les occidentaux demandent à leurs ressortissants de quitter l'Éthiopie. Le point avec Abdourahman Zia.
Lors d'une rencontre à Pretoria ce mardi, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Kenyan Uhuru Kenyatta demandent aux parties au conflit de respecter un cessez-le-feu immédiat, illimité et négocié. Hier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré vouloir aller lui-même sur le front pour diriger les soldats affrontant les rebelles, alors que le TPLF affirme progresser vers Addis Abeba. Les autorités estiment néanmoins que les avancées des rebelles et les menaces sur la capitale éthiopienne sont exagérées. L'émissaire de l'Union africaine, l'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, et son homologue américain Jeffrey Feltman sont actuellement engagés dans des efforts diplomatiques pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Après les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est au tour de la France d'appeler ce mardi, ses ressortissants ont quitté l'Éthiopie. Le Programme alimentaire mondial annonce le lancement d'une importante opération d'aide pour plus de 450 000 personnes dans les villes de Kabolcha et Dessi, dans la région de l'Amara. Les rebelles du TPLF ont revendiqué fin octobre la prise de ces villes voisines, considérées comme un carrefour stratégique.
En Ouganda, les forces de l'ordre font état aujourd'hui de l'arrestation de 4 Somaliens soupçonnés d'avoir apporté un engin explosif présumé dans un hôtel qui doit accueillir le président Yoweri Museveni une semaine après un double attentat qui a fait 4 morts à Kampala. Le détonateur a été découvert hier lors d'une inspection de routine du véhicule des suspects dans l'hôtel Speke Munyonyo, situé en périphérie de la capitale ougandaise. L'hôtel Speke doit accueillir ce jeudi, une réunion ministérielle présidée par Yoweri Museveni. Au Nigeria, les autorités rejettent le rapport d'une commission indépendante qui affirme que les forces de sécurité ont commis ce qui s'apparente à un massacre en tirant sur des manifestants pacifiques en octobre 2020 à Lagos, contredisant la version défendue sans relâche par le gouvernement fédéral. Le document, dit-il, est truffé d'erreurs. Les réactions à Abuja avec notre correspondant Gilbert Tamba.
Lai Mohamed a déclaré à Abuja que les allégations sont des histoires au clair de lune. Il ajoute que jamais dans l'histoire d'une commission d'enquête dans ce pays, son rapport n'a été autant criblé d'erreurs, d'incohérences, de divergences, de spéculations, d'insinuations, d'omissions et de conclusions qui ne sont pas accompagnées de preuves. Le rapport a été dévoilé la semaine dernière et n'a pas encore été rendu public. Il accuse les forces de sécurité d'avoir tiré sur des manifestants pacifiques au poste de péage de Lekki en octobre 2020, puis ont tenté de couvrir les faits. Le ministre de l'Information a nié qu'il y ait eu un massacre. Des dizaines de milliers de jeunes ont manifesté en octobre de l'année dernière pour demander la dissolution d'une unité de police spéciale USAS accusée d'avoir volé, attaqué et même tué des citoyens. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Le rapport de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation sur les crimes présumés de l'ex-chef d'État gambien Yahya Jammeh, très attendu dans le pays, va être remis ce jeudi à son successeur, Adama Barrow, après plusieurs reports. La publication du document demeure un sujet délicat en Gambie, où Yahya Jammeh, 56 ans, actuellement exilé en Guinée équatoriale, compte encore de nombreux partisans qui veulent son retour. La question de son rôle futur est l'un des thèmes majeurs de la campagne pour l'élection présidentielle du 4 décembre prochain. Le président Barrow, lui, a fait savoir qu'il attendrait les recommandations de la commission pour éventuellement réclamer des poursuites contre son prédécesseur. C'est confirmé en Libye. La haute commission électorale indique que 98 candidats, dont deux femmes, ont soumis leur dossier pour briguer le poste de chef d'État en décembre prochain, au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
La liste définitive des candidats sera publiée sous 12 jours, a précisé le directeur de la haute commission électorale, Imad Al-Sayeh, une fois que les vérifications et recours seront complétés. Parmi les candidats, il y a notamment Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien leader Muammar Kadhafi, le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'est du pays, l'influent ex-ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga et le chef du gouvernement intérimaire Abdelhamid Deiba. Deux femmes se sont portées candidates, Laila Ben Khalifa, 46 ans, présidente du parti Le Mouvement National, et Unaïda Al-Mahdi, chercheuse en sciences sociales. Ce premier scrutin au suffrage universel en Libye est prévu le 24 décembre prochain. Selon la haute commission électorale, plus de 2,83 millions sur quelques 7 millions d'habitants se sont inscrits sur les listes et 1,5 millions d'électeurs ont déjà retiré leurs cartes.
Un des plus farouches opposants au gouvernement du Burundi, Alexis Nduhigie, fustige la levée des sanctions américaines contre le pays où, selon lui, rien n'a changé pour justifier cette décision. Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière la levée des sanctions imposées en 2015 au Burundi, saluant une embellie depuis l'arrivée au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. C'est étonnant qu'un pays aussi puissant puisse regarder la question du Burundi avec des yeux très réducteurs, déclare Alexis Nduhigie, président du parti d'opposition Mouvement pour la solidarité et le développement. Les citoyens meurent chaque jour. Les rapports de droits de l'homme en parlent. Les observateurs qui sont sur place le savent, ajoute cet ancien journaliste de 54 ans qui vit en exil à Bruxelles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans une alliance de circonstances inédites, les États-Unis et d'autres pays, dont la Chine, vont utiliser leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de faire baisser les cours de l'or noir. C'est ce qu'annonce la Maison-Blanche. Davantage avec Yacouba Ouedraogo.
D'après le communiqué de la Maison-Blanche, les États-Unis vont mettre sur le marché 50 millions de barils de pétrole. Cette opération se fait en parallèle avec d'autres États, gros consommateurs de pétrole, en particulier la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni. Le brut a flambé sur fond du redémarrage de l'économie et des voyages après la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. En augmentant l'offre, les États-Unis et les autres pays espèrent faire baisser les coûts tout en mettant la pression sur les pays producteurs qui refusent de produire davantage de pétrole. Le président Joe Biden a aussi dans son viseur les entreprises du secteur accusées de ne répercuter à la pompe que les hausses de prix tout en engrangeant des profits pharaoniques. La Maison-Blanche a demandé à l'autorité américaine de la concurrence de se pencher sur le comportement éventuellement illégal des compagnies pétrolières et n'exclut pas des actions en justice. Les États-Unis stockent leurs réserves stratégiques de pétrole sur 4 sites souterrains en Louisiane et au Texas. Selon un pointage du ministère de l'Énergie effectué fin août, ces sites contiennent 714 millions de barils.
L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'emprise de la pandémie de COVID-19 en Europe, qui pourrait déboucher sur 700 000 morts supplémentaires sur le continent, portant le nombre total de décès à 2,2 millions d'ici mars de l'année prochaine. L'OMS dit s'attendre à ce que les lits d'hôpitaux soient soumis à une pression élevée ou extrême dans 25 pays d'ici au 1er mars 2022. Drame en Bulgarie, au moins 46 personnes, dont 12 mineurs, sont mortes calcinées la nuit dernière dans un accident de car qui s'est embrasé sur l'autoroute, le plus meurtrier en Europe ces 10 dernières années. La plupart des victimes sont originaires de Macédoine du Nord, où le bus était immatriculé, d'après le premier ministre de ce pays, Zoran Zaev, qui s'est immédiatement rendu à Sofia pour rencontrer les 7 survivants à l'hôpital. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, résumé de l'actualité économique que nous présente Nanik Talani.
La Banque mondiale va investir 332 milliards de francs CFA dans la sécurité agricole et l'amélioration de la résilience des systèmes au Mali, au Burkina Faso, au Togo et au Niger, et pour 3 organisations régionales, la CEDEAO, le CORAF et le SILSES. Le projet permettra la mise en œuvre d'un vaste programme d'accroissement de la productivité agricole, la promotion des chaînes de valeur et du commerce intra-régional, ainsi que le renforcement des capacités régionales de gestion des risques agricoles. La commission de l'UEMOA a assuré ce 22 novembre de la reprise prochaine des travaux du chantier de construction des postes de contrôle juxtaposés de Moussala à la frontière entre le Mali et le Sénégal et à l'arrêt depuis 2016. C'était lors d'une rencontre entre le commissaire Jonas Bian de l'UEMOA et le ministre malien des infrastructures. Cette importante infrastructure facilitera des échanges au sein de l'Union. Pour terminer, la foire commerciale intra-africaine s'est achevée à Durban, en Afrique du Sud. Il a réuni plus de 1100 entités exposant leurs produits et services à plus de 10 000 délégués, visiteurs et acheteurs de plus de 95 pays du continent et au-delà. Plus de 300 jeunes sélectionnés dans toute l'Afrique y ont participé. Plus de 40 milliards de dollars d'accords devaient y être signés.
Sans plus tarder, en tour d'horizon des nouvelles sportives, nous retrouvons Yakuba Wiramgo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Nigérien Victor Osimhen manquera la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun, annonce son club. L'attaquant de Naples a été opéré ce mardi après plusieurs fractures déplacées au visage et sera éloigné des terrains pendant 3 mois. Le joueur de 22 ans souffrait de multiples fractures déplacées de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche. Après un impressionnant choc aérien dimanche avec le défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar, l'avant-centre des Super Eagles s'est vu poser des vis et des plaques en titane au cours de cette intervention menée dans une clinique de Naples, indique le Napoli. Avec cette blessure de l'international nigérien, 19 sélections, 10 buts, Naples, co-leader du championnat d'Italie, avec l'AC Milan, perd jusqu'à la fin février. Celui qui est son meilleur buteur avec 5 réalisations en Serie A et 4 en Ligue Europa. 3 cadors européens ont l'occasion de se qualifier ce soir pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Lors de la 5e journée en Catalogne, le Barça verra les 8e s'il s'impose. Un dénouement rêvé par le nouvel entraîneur Xavi, intronisé début novembre. À l'image du FC Barcelone, Manchester United connaît un début de saison difficile qui a conduit dimanche au limogeage de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. L'ancien milieu des Red Devils, Michael Carrick, jusque-là adjoint du Norvégien, assure l'intérim avec la mission cruciale de qualifier l'ambitieux club anglais pour les 8e de finale. L'équipe de Cristiano Ronaldo aura son billet en poche si elle s'impose sur le terrain de Villarreal. Tenant du titre et leader du championnat d'Angleterre, Chelsea a réussi son début de saison, mais n'a pas encore validé son billet pour les 8e de finale. La faute à sa défaite sur le terrain de la Juventus 1-0 fin septembre. Face aux Turinois, il s'agit de faire coup double pour les Blues, gagner pour se qualifier et prendre la première place actuellement occupée par les Italiens. NBA, Brooklyn n'a pas eu la partie facile chez les Cavaliers. Il a fallu 4 lancers francs de Kevin Durant dans les 13 dernières secondes pour s'assurer l'essentiel 117-112. Les Nets enchaînent ainsi avec un 3e succès de rang et devancent Chicago, passé totalement au travers contre Indiana 109-77. Washington, qui pouvait en profiter pour prendre la deuxième place, s'est incliné 109-103 sur son parquet contre Charlotte. Boston a enchaîné une troisième victoire contre Houston, 108-90, et Milwaukee, une quatrième victoire face à Orlando, 123-92. À l'ouest, Phoenix a solidifié sa deuxième position en venant à bout de valeureux Spurs 115-111. Utah a craqué à domicile face à Memphis 119-118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mille merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Les systèmes agroalimentaires mondiaux, encore confrontés aux conséquences de la pandémie de Covid-19, doivent se préparer sans tarder à de nouveaux chocs dans le futur, qu'il s'agisse de sécheresse, d'inondations ou de maladies diverses. Avertissement émis par la FAO, l'Agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture. À l'heure actuelle, il y a déjà 3 milliards de personnes qui ne peuvent se permettre d'avoir une alimentation saine, rappelle l'agence dans un rapport publié aujourd'hui. Rosine Mounezero s'est entretenue avec Dominique Burgeon, directeur du bureau de liaison de la FAO à Genève.
Bon, alors en fait, effectivement, aujourd'hui, nous avons produit le rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Et ce que ce rapport confirme, c'est qu'effectivement, les systèmes alimentaires sont complexes, qui comprennent toute une série d'éléments, qui va de la production primaire aux chaînes d'approvisionnement, aux réseaux de transport, et qui mettent ce rapport met en évidence évidemment que ces systèmes ont des fragilités et qu'un choc finalement sur un des points de la chaîne peut affecter tout le système. Et ces chocs, ces fragilités mettent évidemment en péril la sécurité alimentaire et la nutrition de centaines de millions de personnes. Nous avons mis en évidence plus tôt dans l'année, dans le cadre de l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, que entre 720 et 811 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire chronique. Mais 3 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine. Et ce à quoi le rapport met en évidence, qu'on pourrait potentiellement ajouter 1 milliard de personnes supplémentaires si le revenu de ces personnes venait à diminuer d'un tiers. Et en fait, on voit que tous ces systèmes alimentaires sont susceptibles d'être affectés par des chocs. Nous avons les chocs, évidemment les chocs liés aux catastrophes naturelles, aux catastrophes climatiques, aux extrêmes climatiques, mais aussi dans beaucoup de pays, aux conflits ou aux chocs économiques, lesquels évidemment sont exacerbés par exemple des chocs comme celui auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle, qui est lié à la situation de la pandémie de Covid-19.
Dans ce rapport, la FAO dit avoir mis au point plusieurs indicateurs de résilience pour permettre aux pays justement de prendre conscience de la vulnérabilité de leur système alimentaire. Oui. Brièvement, quels sont ces points?
Alors, tout à fait. En fait, ça montre donc il y a des vulnérabilités, il y a des fragilités, et donc ce qu'il faut, c'est augmenter la résilience de ces systèmes alimentaires. Alors, pour augmenter la résilience, on doit essayer de mieux prévenir, anticiper, absorber, adapter et transformer ces systèmes. Et donc pour ça, en fait, il y a 3 éléments fondamentaux sur lesquels il faut travailler. La première dimension, c'est travailler à la diversité dans la production nationale, dans les importations et dans les chaînes d'approvisionnement. Le second, c'est travailler sur des réseaux de transport alimentaire robustes. Et troisièmement, il est nécessaire de garantir un accès continu à la nourriture pour tous. Et donc, c'est vraiment par la mise en place de politiques, de stratégies sur ces aspects-là qu'on va pouvoir finalement augmenter la résilience des systèmes alimentaires.
Dominique Burgeon, directeur du bureau de liaison de la FAO à Genève.
La perception d'une urgence climatique a stimulé les soutiens à la Grande Muraille Verte, un projet colossal de restauration des terres visant à stopper l'avancée du désert entre le Sahara et le Sahel. Mais il y a encore loin entre la vision initiale de cette merveille naturelle traversant l'Afrique sur des milliers de kilomètres et la réalité. Ginny Kapombo-Villa nous en dit davantage.
La reforestation du plateau de Simiri au Niger a débuté en 2013. Armés de pioches et de bêches, des villageois ont construit des digues qui retiennent plus longtemps les eaux de pluie autour des jeunes arbres pour assurer leur croissance, même en cas de sécheresse. On peut voir des termites s'enfoncer dans des galeries, des empreintes d'écureuils et de perdrix, ainsi que des mantes religieuses accrochées aux arbres ou des nuées de sauterelles dévorant les feuilles. Mouhamadou Soulé, chef des services de la lutte contre la désertification de Simiri.
On est toujours sur le site de la Grande Muraille Verte. Donc, comme on l'avait dit tantôt, et la toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, et les banquettes, et puis les demi-lunes sylvopastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés.
La Grande Muraille Verte, projet de l'Union africaine, vise à restaurer d'ici 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. Cependant, il y a des zones où les paysans craignent de s'aventurer à cause des attaques djihadistes, ce qui risque de compromettre la concrétisation de ce chantier gigantesque. Le colonel Maïcharou Abdou, directeur général de l'agence de la Grande Muraille Verte au Niger.
Très important cette insécurité-là qui est parvenue vraiment au niveau de l'initiative. Ce n'est pas uniquement au niveau du Niger, c'est par rapport à l'ensemble des pays du Sahel. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abri-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là.
Le Niger ambitionne de reverdir 3,6 millions d'hectares sur 37,5% de son immense territoire d'ici 2030. Malgré les apports de l'ONU et la Banque mondiale, le Niger a besoin de plus de 454 645 milliards de francs CFA. Les zones forestières du Sud ont déjà perdu un tiers de leur surface, selon les programmes des Nations Unies pour l'environnement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les États-Unis et la Chine vont utiliser leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de faire baisser les cours de l'or noir. Cette décision intervient au moment où les prix à la pompe ont flambé aux États-Unis, très gros consommateurs d'essence. Une décision qui va certainement avoir un impact sur le marché pétrolier très rapidement, d'après Jean-François Seznec, économiste à l'Atlantic Council. Abdourahman Dia l'a joint à Annapolis dans le Maryland.
Oh ben ça va certainement avoir une conséquence importante sur le prix. Aujourd'hui, quand le marché va démarrer en vrai, mais va s'accroître, je pense que les prix vont tomber assez drastiquement. On sait que la Chine a déjà commencé à faire des ventes de ses réserves et comme l'Europe est apparemment censée faire la même chose, je pense que ça va avoir des conséquences assez importantes sur le prix qui va descendre de plus de 80 dollars à je ne sais pas combien, mais probablement aux alentours de 50 dollars le baril, à mon avis.
Et justement, dans ce contexte de tension entre les États-Unis et la Chine, les deux pays arrivent à s'entendre sur cette question. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?
Ben écoutez, ça, je trouve que c'est très important pour la politique américaine, pour la politique chinoise aussi, parce que ça veut dire que quand nos intérêts sont les mêmes que les leurs, les deux pays peuvent s'entendre et travailler ensemble. Et je pense que ça est une grande victoire, à mon avis, pour l'administration Biden, parce que les problèmes entre la Chine et les États-Unis n'ont pas vraiment diminué, mais le ton est très différent et ça veut dire aussi que, quand je le disais, les intérêts sont similaires, on peut travailler ensemble, ce qui est au point de vue tension internationale est à mon avis très important.
Quelle est à votre avis la posture de l'OPEP et de l'Arabie Saoudite? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire dérailler ce projet pour faire baisser les prix sur le plan international?
Ce qu'ils pourraient faire, bien sûr, c'est de décider de diminuer la production, mais il faudrait que tout le monde soit d'accord. Il faudrait surtout que l'Arabie Saoudite et la Russie soient d'accord. Or, je doute fort que l'Arabie Saoudite et la Russie, sur ce sujet précis, puissent s'entendre en ce moment. Parce que je sais que je pense que la Russie ne veut pas vraiment diminuer sa production, parce qu'ils essayent toujours d'éviter et de faire que ce soit les autres qui diminuent leur production et pas eux-mêmes. L'Arabie pourrait changer relativement facilement de posture, mais ils seront mis sous pression par l'administration Biden pour ne pas vraiment changer leur production. Donc l'OPEP, si vous voulez, va vraiment souffrir de ça. Et l'alliance entre les Russes et les Saoudiens pourrait vraiment avoir des tensions à ce niveau-là.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'état des lieux de la pandémie de COVID-19 en Afrique et dans le monde. Alors que la plupart des pays occidentaux ont entamé leur campagne de vaccination pour une dose de rappel, en Afrique, la majorité de la population n'a pas encore accès au vaccin. Et pourtant, c'est sur ce continent que le nombre de décès est le plus bas. Néanmoins, l'impact de la pandémie sur l'économie et le système sanitaire est très lourd en Afrique. Comment faciliter l'accès aux vaccins et autres types de traitements à venir, comme les comprimés de Merck et Pfizer? Devrait-on apprendre à vivre avec le virus pour permettre une relance totale des activités? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici même, aux États-Unis, entre Thanksgiving et les fêtes de fin d'année, ce qu'on appelle la saison des fêtes a démarré. Mais les problèmes d'approvisionnement, la pandémie de Covid-19, l'inflation et les ventes en ligne auront un impact sur les achats au cours de cette période. Reportage de Maxime Moskalkov, récit Claire Morin-Gibourg.
En 2021, tout comme l'année précédente, la majorité des achats de la saison des fêtes se feront probablement en ligne, selon les experts. La facilité des achats en ligne est une leçon de la pandémie. Selon les recherches d'Adobe Digital Insight, les ventes au cours de cette période pourraient atteindre 207 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que les choses sont redevenues normales, selon Vivek Pandya, analyste principal à Adobe Digital Insight.
En raison de la pandémie et des problèmes de chaîne d'approvisionnement mondial, les prix sont en moyenne 3% plus élevés que ce que nous avons vu dans le passé, et puis les remises réelles s'affaiblissent. En raison de la forte augmentation de la demande et d'une disponibilité plus limitée, les prix commencent à augmenter pour les produits en ligne.
Les problèmes d'approvisionnement ont incité les entreprises à commencer à réduire les prix plus tôt et à ne pas attendre de commencer les achats de Noël dans une course folle le lendemain de Thanksgiving appelé Black Friday. Matthew Isaac est professeur de marketing à l'université de Seattle.
Les détaillants ne veulent pas nécessairement voir une ruée folle de commandes passées juste avant les vacances de Noël, car ils pourraient ne pas être en mesure de répondre à ce genre de commandes. Il est donc dans leur intérêt de décaler la demande plus tôt.
Matthew Isaac explique qu'en raison de problèmes d'approvisionnement, les magasins se concentrent davantage sur les articles les plus populaires en stock plutôt que sur une variété d'options pour les consommateurs. La psychologue et spécialiste de la consommation Donna Hoffman de l'université George Washington dit que les acheteurs pendant cette période des fêtes peuvent être déçus.
Beaucoup de gens aux États-Unis pensent que nous sommes en quelque sorte revenus à la normale et ils s'attendent à une normalité lorsqu'ils vont se connecter. Je pense que les détaillants doivent se préparer à une vague de retour plus qu'à tout autre moment. Il y a cette frustration qui va se transformer en beaucoup de déception.
Les achats en ligne ont également changé le concept du Black Friday où beaucoup de consommateurs se ruaient dans les magasins pour obtenir les meilleurs prix. Sherry Lambert est professeure de marketing à l'université Temple.
In the past, it was Cyber Monday, right? Black Friday, Cyber Monday.
Dans le passé, c'était le Cyber Monday et le Black Friday. Maintenant, ce type de bonnes affaires à faire avant les fêtes, c'est Cyber November et Black November. Il y a un manque de conducteurs de camions de livraison et il y a une pénurie massive de main-d'œuvre de détaillants.
Those individuals, there's a massive labor shortage of retailers.
Les experts conseillent aux consommateurs d'être moins pointilleux dans le choix des cadeaux cette année et d'avoir toujours un plan B si quelque chose ne se passe pas tout à fait comme prévu.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voaafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Au micro, c'était Jacques Aristide. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.